Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Opondi.
Le chef de l'État en visite privée à Bruxelles en a profité pour faire un contrôle médical de routine. Il n'a pas été opéré. La mise au point est de l'ambassadeur de la RDC en Belgique. Tenue de la prochaine conférence des gouverneurs à Mbandaka, le Premier ministre y est arrivé hier samedi afin de préparer l'arrivée du chef de l'État. Notre invitée est Rosie Kalicki, détentrice d'un master en éducation à l'université de Bamberg en Allemagne. Elle fait l'état des lieux de la représentativité des femmes dans le domaine de la recherche en RDC. Bonjour à tous. On en sait un peu plus sur le séjour belge du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, depuis quelques jours, des informations faisant état de l'opération à cœur ouvert à Bruxelles du président Tshisekedi ont circulé sur les réseaux sociaux. Pour sa part, l'ambassadeur de la RDC en Belgique indique que le chef de l'État, qui effectue une visite privée à Bruxelles et qui en a profité pour faire un check-up médical de routine, n'a pas été opéré. Christian Ndunga Gala affirme par ailleurs que le chef de l'État a profité également de ce séjour pour l'entretenir sur les relations diplomatiques entre la RDC et le pays de sa zone de couverture. L'ambassadeur Christian Ndongala est joint au téléphone par Noëlla Louzitou.
J'ai été reçu par le président de la République le vendredi 11 dernier en sa résidence. C'est un homme bien portant avec qui nous avons évoqué un certain nombre de sujets, de dossiers qui lui tenaient à cœur, pour lequel il m'a communiqué des instructions claires par rapport à sa vision. Nous avons eu une séance de travail en colloque singulier, donc l'essentiel de la teneur qui porte sur toute la juridiction, à savoir la Belgique, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, les missions auprès de l'Union européenne. Toutes ces discussions, vous pouvez le conseiller avec moi que ce sont des discussions qui ne peuvent souffrir d'aucune publicité. De l'intervention chirurgicale, il n'en a jamais été question. Du check-up, oui, soigner une hernie discale cervicale ne nécessite guère un bistouri ou une intervention quelconque, en tout cas à ce stade. Sinon, les médecins l'auraient gardé en observation. Nous savons tous qu'une intervention chirurgicale est un acte médical très délicat qui nécessite une bonne préparation en amont comme à la fin, avec un suivi post-opératoire. Donc le président de la République est plein d'entrain qui joue la carte de la transparence en communiquant sur son bulletin de santé. Ailleurs, l'état de santé du chef de l'État tient du secret d'État. Le président fait de son état de santé une affaire publique. Mais après quelques jours de repos, le président va devoir regagner Kinshasa très très prochainement, d'ailleurs, pour reprendre ses activités normalement.
En bref, session parlementaire du mois de mars 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a, au cours du Conseil des ministres du vendredi 11 mars, insisté sur l'urgence et les devoirs pour les membres du gouvernement de suivre les pertinentes recommandations du Parlement et d'accorder une attention particulière sur celles liées à l'état de siège. Et dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires, Samalou Kondé a informé également aux membres du gouvernement de la signature le jeudi 10 mars des protocoles d'accord avec les trois agences d'exécution, notamment le Bureau central de coordination BCECO, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre du Plan. Et puis, le Premier ministre, puisque nous parlons de lui depuis hier, samedi à Mbandaka, sa mission est de préparer l'arrivée du chef de l'État dans le Grand Équateur, particulièrement en vue de la tenue de la prochaine conférence des gouverneurs dans la ville. Parmi les actions, le chef du gouvernement a promis de réhabiliter l'agriculture au Grand Équateur afin qu'il redevienne le grenier du pays. Pour cela, le Premier ministre conduit une délégation de 11 membres de son gouvernement, dont le vice-premier ministre à la fonction publique, ainsi que des parlementaires du Grand Équateur. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Le Premier ministre a confirmé pour bientôt la visite du chef de l'État au Grand Équateur, émis par son propre accueil ce samedi en Bandakar. Accueil digne d'un Premier ministre qui visite la région après environ 40 ans, a-t-il dit. Sama Lukonde a aussi annoncé à la foule nombreuse au parc de Gênes qu'il prépare déjà cette visite présidentielle en s'imprégnant des problèmes du Grand Équateur. Parmi les missions confiées à son gouvernement, le Premier ministre a évoqué la restauration de l'Équateur comme grenier du pays par une production agricole intense et variée, notamment dans les cadres de la diversité de l'économie nationale. Et pour cela, il faut répondre au préalable de l'électricité et des routes ou voies d'évacuation, a-t-il reconnu, afin de booster l'industrie agropastorale et de créer des emplois aux jeunes. Jean-Michel Sama Lukonde a alors invité tous les Équatoriens à s'approprier ce programme de développement qui évitera les injustices selon la vision du chef de l'État. Il a parlé en outre des efforts que doit fournir son gouvernement pour assurer la sécurité, la santé, l'éducation, l'eau potable et l'électricité à la population. Enfin, ce dimanche, le Premier ministre va lancer dans la localité de Bokoté la construction du sanctuaire du martyr catholique Isidore Bakanja en prévision de la prochaine visite du pape François en RDC. Bandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Faute de visite d'un Premier ministre à l'Équateur depuis environ 40 ans, l'arrivée de l'actuel Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et d'une dizaine de ses ministres constitue un soulagement pour la population. Déclaration du cadre de concertation de la société civile de la province de l'Équateur, car plusieurs problèmes sociaux de base, longtemps déplorés par la population, trouveront des solutions directement avec le chef du gouvernement, a estimé son président. Fabien Mungunza l'a dit hier au micro de Paul Richard Malengela.
Nous pensons que la présence du Premier ministre ici sur place lui permettra de parler de son propre droit. La réalité du terrain, la crise politique que vit la province mérite une attention particulière afin que des solutions soient apportées à cette crise. Mais il y a également des problèmes liés au social et à l'économique. Les services sociaux de base dont ne remplissent pas le rôle attendu d'eux dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'électricité, dans les domaines de l'eau, les infrastructures routières, notamment la voirie urbaine, sans oublier la voirie rurale aussi, qui est importante, même le cas des naufrages sur les rivières, les cours d'eau, les grèves à répétition dans le secteur de l'éducation. Et donc la formation des enfants pose un problème, la rétrocession qui semble-t-il ne vient plus. Et donc le fonctionnement à la base est bloqué. Et donc nous pensons que ce sera une opportunité pour le Premier ministre de pouvoir se saisir de tous ces dossiers-là. Il pourra lui-même entrer en contact avec toutes ces difficultés et pouvoir y apporter à temps opporté des solutions appropriées.
Par ailleurs, Fabien Mungunza a exprimé le vœu de voir le Premier ministre et sa délégation échanger aussi avec les différentes tendances de la société civile de l'Équateur. En Ituri, les leaders des communautés Lendu et Emma demandent au gouvernement de la RDC de mettre en œuvre dans l'urgence le programme de désarmement et démobilisation des groupes armés. C'est là pour permettre de décanter la situation sécuritaire qui est très préoccupante dans cette province, avec la prise en otage de membres de la task force envoyée par le chef de l'État. Il lance également un appel au groupe armé Codeco de libérer ses otages sans condition. Ils l'ont dit dans une lettre ouverte adressée vendredi aux deux parties. Isaac IOP nous en parle.
Dans la première correspondance, ces deux communautés ont déploré la lenteur de la présidence de la République dans les traitements des dossiers des otages des 7 membres de la task force. Selon eux, je cite, « Si quelque chose par malheur leur arrive, le peuple tiendra votre autorité pour responsable. » Ils plaident également pour la mise en œuvre du programme de DRCS lancé depuis plusieurs mois en vue de pacifier les zones insécurisées dont l'Ituri. Dans la seconde lettre adressée aux groupes armés actifs en Ituri, ces deux communautés fustigent que les miliciens de la Codeco gardent depuis environ un mois dans leur maquis leurs propres frères de l'Ituri qui se sont pourtant sacrifiés pour la recherche de la paix. Ils ajoutent, je cite, leur prise en otage ne profite ni à la province ni à la Codeco. Ils demandent au commandant de cette milice de libérer sans condition ces otages. Cela pour permettre à ces derniers de poursuivre leur mission et de servir de canal avec le pouvoir central et ses groupes armés. Ils exhortent ces miliciens à ne pas céder aux manipulations des tireurs de ficelles et des prédateurs qui visent la ruine de la province de l'Ituri. De leur côté, ces deux communautés disent être résolument engagées pour la recherche de la paix et travaillent de manière hardie pour cette fin. Leurs efforts seront vains s'il n'y a pas une forte implication du pouvoir central, ajoute-t-il. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, l'administrateur de territoire de Congolo interdit depuis hier samedi toute sortie de maïs vers les autres entités territoriales. Nous sommes à 390 km au nord-est de Kalemie. La décision de l'autorité vise à contrôler la hausse de prix de cette denrée alimentaire qui se raréfie dans la zone. Sur place, le maïs de Congolo connaît une forte exportation dans la région. Je vous propose d'écouter les explications de l'administrateur du territoire, Ramazani Kianga, au micro de François-Xavier Mibé.
Congolo est un grenier pour le moment. Il y a des affrontements par-ci par-là à Nyunzu, même au niveau des autres territoires. Les gens ne cultivent pratiquement pas à cause de l'insécurité. Des territoires voisins se sont approvisionnés depuis un certain temps au niveau de Congolo. Le prix a commencé à escalader. Les trafiquants, ils viennent acheter le maïs à Congolo et le coût du maïs commence à monter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le bassin de maïs qui d'habitude coûte 2 000, 2 500, 3 000 francs congolais. Pendant cette période de récolte, à Congolo, le maïs commence à coûter 8 000, 9 000. C'est pourquoi le territoire prend des mesures de protection, interdire la sortie du maïs vers d'autres territoires.
Une délégation zambienne conduite par les responsables du district de Chililabombwe a séjourné jeudi dernier à Kasumbalesa. Au cours des échanges avec le maire de cette ville frontalière, plusieurs questions ont été débattues. C'est notamment celle liée à la sécurité le long de la frontière commune, à la fluidité des véhicules en importation et en exportation, sans oublier les petits commerces transfrontaliers qui contribuent aussi à l'économie des deux pays. D'amples détails avec le maire de Kasumbalesa, André Kapamba, au micro de Jean Gandou.
Nous avons échangé plusieurs points, notamment le renforcement de la sécurité autour de notre frontière commune et lutter contre la fraude et la contrebande douanière. Nous avons échangé sur la fluidité des activités à l'exportation et à l'importation, étant donné qu'aujourd'hui, des grandes quantités de production minière s'observent en RDC. Et pour ce faire, il y a lieu que les services de la douane, notamment la douane zambienne et celle congolaise, puissent s'adapter à cette situation. Ainsi, plusieurs facilités ont été adoptées. C'est notamment du côté de la Zambie, il n'y a plus de constat physique sur le produit en transit. Dès lors qu'on connaît que c'est du cuivre et du cobalt, c'est directement checké par la machine et que cela passe. Et du côté congolais, également, c'est l'élargissement de parking à l'export, de sorte que la congestion qu'on observe, que ce soit à Lubumbashi, à Kanyaka et même à Kasumbalesa, puisse être résorbée.
Ouverture hier samedi à Goma de la première édition du Salon Leadership Féminin Femmes Engagées 2022. Ces forums scientifiques et intellectuels réunissent une centaine de femmes leaders, femmes engagées et entrepreneurs de Goma et de Bukavu. Le but est de promouvoir les droits de la femme à travers son leadership, son courage, ses innovations pour le développement de la province notamment. Le thème de ce salon, organisé par la plateforme Women Space et Femmes Pilier du développement communautaire. Denise Loukesso pour les détails.
La femme a des atouts et des potentialités. Il lui manque souvent de l'espace en vue de les développer, a dit le vice-gouverneur Ekuka Lipopo qui a ouvert ses salons à Goma.
Il ne faudra pas l'ancienne conception où il n'y avait que l'homme qui devait travailler. Non, pas du tout. Aujourd'hui, et l'homme et la femme vont travailler. Ils bossent tous les deux et il faut engranger de l'argent à la famille.
La femme a un grand rôle à jouer dans le développement de la République. C'est pourquoi il faut l'accompagner, l'aider à jouer ses rôles. Ce sont là même les motivations de ces salons qui se veut un cadre par excellence de la promotion du leadership féminin. Madame Sifa est la présidente de Women Space.
On a besoin d'être ensemble pour bien marcher et pour le développement. Souvent chez nous, tu vois seulement les images du Kivu, c'est le viol, c'est la guerre. Et c'est pas ça. Il y a des femmes battantes ici. Regarde toutes ces femmes ici. Elles sont là, elles se cherchent. Elles ont cette soif et elles entreprennent, donc ce sont les femmes leaders.
Cette initiative de Women Space vise à mettre ensemble les femmes leaders et les jeunes filles ambitieuses. C'est en vue de partager leurs expériences, échanges de réussites afin de créer d'autres femmes leaders capables d'impacter positivement pour le développement du Kivu. Goma, Denise Louquet sur Radio Kapi.
Actualité internationale. La France annonce l'ouverture de la quatrième dose de vaccin aux plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de 3 mois face au léger rebond de l'épidémie de Covid-19, tout en confirmant la levée des restrictions demain lundi, dont la fin du pass vaccinal et celle presque totale du masque. Le Premier ministre français a dit recommander fortement aux personnes fragiles, du fait de leur âge ou de leur pathologie, de maintenir le port du masque dans les lieux clos et dans les grands rassemblements.
L'invité.
En RDC, les femmes sont très peu représentées dans le domaine de la recherche. 3 femmes chercheuses, dont 2 Congolaises, ont travaillé sur la question et publié un mini-documentaire à ces sujets le mardi 8 mars. L'une d'elles, Madame Rosie Kaliki, détentrice d'un master en éducation à l'université de Bamberg en Allemagne, a fait l'état des lieux de la représentativité des femmes dans le domaine de la recherche en RDC. Et s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Madame Rose Kaliki, bonjour.
Bonjour, madame.
Quelles sont les statistiques des femmes dans la recherche en RDC?
Les femmes sont très peu nombreuses dans la recherche en RDC. Par exemple, lorsque nous voyons les statistiques des femmes qui font des recherches en RDC, c'est moins de 2% des femmes qui s'impliquent dans la recherche.
Pourtant, quand on visite les centres de recherche à Goma, par exemple, on trouve qu'il y a des femmes.
Oui, la majorité des femmes sont là, ils travaillent beaucoup, s'impliquent dans l'administration, pas dans la recherche.
Et à l'université, il y a des femmes enseignantes, elles aussi ne font pas la recherche.
C'est vraiment un très petit nombre qui publie. Elles sont là, elles s'occupent seulement de l'enseignement, mais c'est vraiment un petit nombre qui s'implique dans la recherche.
Et qu'est-ce qui bloque les femmes à faire de la recherche?
Ce qui bloque la femme, c'est souvent lié à la situation culturelle et sociale et même économique. Les femmes sont plus liées à cause de la situation vraiment culturelle de notre pays. Nous n'avons pas cette habitude-là de lire, de faire des recherches. On s'occupe d'autres choses concernant la famille.
Et personnellement, vous? Vous avez un master en éducation. Comment c'est arrivé que vous vous retrouviez dans la recherche?
Si j'étais allée faire la recherche en Allemagne, c'était vraiment une décision et la volonté. Mais aussi, c'était la motivation de mon mari. Il m'avait beaucoup encouragé pour continuer avec les études. Ce qui n'est pas la même chose chez les autres femmes. Souvent, elles sont bloquées par les problèmes familiaux.
Et vous avez passé combien de temps là-bas aux études?
Oui, j'ai passé 3 ans aux études. J'étais revenue avec mon diplôme de master.
Et pourquoi vous n'êtes pas allée jusqu'au doctorat?
Oui, j'ai connu toujours le blocage par rapport à la situation économique, puisque ça demande aussi de l'argent.
Lorsque nous visitons les universités, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont admises comme assistantes. Comment les encourager à se diriger vers la recherche pour se retrouver aussi au sommet?
Les filles, effectivement, sont dans les universités. Alors, pour les encourager, il faut des actions comme faire de communautés d'apprentissage entre les femmes chercheuses, des réflexions sur comment faire les recherches. Et aussi, beaucoup de filles sont dans les universités ou même des assistantes, mais il manque de bourses. Il faut que le gouvernement, notre gouvernement, s'implique vraiment dans la scolarisation des femmes en donnant des bourses d'études. Dans notre société, beaucoup de femmes croient que après avoir fini leur licence, c'est tout vraiment, ils sont déjà au top et elles ne veulent plus à continuer avec les études et ils laissent directement toutes les responsabilités aux hommes. Et c'est pourquoi nous allons constater que ce sont les hommes qui sont plus nombreux dans les recherches que les femmes, puisque les femmes se contentent déjà de famille, de mari, de mariage et sont satisfaites avec des diplômes de licence.
Et donc, vous les encouragez à aller de l'avant, à voir au-delà de la licence?
Oui, je les encourage, malgré leur statut, d'aller vraiment de l'avant et de s'impliquer beaucoup dans les recherches. Puisque les recherches, ça donne une piste de solution aux problèmes. Alors, les femmes ont des problèmes, mais elles ne sont pas là. Elles ne sont pas dans les recherches. Et c'est pourquoi ce sont les hommes qui font des recherches sur les femmes et comme elles ne sont pas des femmes, ils sont aussi limités.
Et on ne trouve pas des solutions adéquates.
Oui.
Quel conseil vous donnez aux jeunes chercheuses pour que si elles rencontrent des difficultés, qu'elles ne baissent pas les bras, mais qu'elles puissent continuer?
Les jeunes ont un grand travail à faire. Il faut qu'elles puissent s'impliquer vraiment dans les recherches pour des solutions socio-économiques, puisque c'est à partir des recherches, à partir des études, qu'il y a élévation de la nation.
Master Rosie Kaliki, merci.
Merci beaucoup, journaliste.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.